Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Tout sur l'économie » ou presque est un ouvrage de vulgarisation économique et financière signé Gilles Mito, connu sous le nom de O, Reka. Ancien trader devenu créateur de contenu pédagogique, l'auteur s'adresse à un public qui veut comprendre les mécanismes souvent dissimulés derrière le vocabulaire des banques, des gouvernements et des marchés. Le livre ne propose pas un manuel neutre au sens d'une liste de définitions isolées. Il relie monnaie, dette, croissance, inflation, crise et finances de marché afin de montrer comment ces sujets façonnent concrètement les décisions publiques et la vie quotidienne. L'approche repose sur une progression explicative, des exemples accessibles, des graphiques et un ton direct. Elle assume également que l'économie est traversée par des choix politiques et sociaux, notamment lorsqu'il est question des indicateurs de richesse, de régulation financière ou de contraintes écologiques. L'objectif central est donc moins de fournir des recettes que de donner au lecteur les repères nécessaires pour examiner avec discernement les discours économiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la création monétaire replace les banques au centre de l'économie réelle. Elle, une des contributions majeures du livre, consiste à clarifier l'origine de la monnaie. Il combat l'image intuitive selon laquelle les banques se contenteraient de prêter une épargne préexistante conservée dans leur coffre. Dans le fonctionnement bancaire moderne, l'octroi d'un crédit crée simultanément un dépôt sur le compte de l'emprunteur. Cette explication permet de comprendre pourquoi la monnaie est étroitement liée aux décisions de financement, aux anticipations des banques et à la capacité des agents économiques à rembourser. Elle évite aussi deux erreurs symétriques, croire qu'une banque peut créer de la monnaie sans limite ni conséquence, ou croire que l'État et les banques centrales contrôlent mécaniquement chaque euro en circulation. Le livre articule cette question avec les théories monétaires, la comptabilité et le rôle de la banque centrale, les taux d'intérêt, les règles prudentielles, la demande de crédit et la confiance interviennent comme des contraintes et des leviers. Plutôt que comme une commande unique, cette perspective rend plus intelligibles les débats sur la dette publique, le soutien au système bancaire et les politiques menées après une crise. Elle rappelle surtout que la monnaie est une institution sociale, fondée sur des relations de bilan et de confiance, non une simple marchandise neutre. Deuxièmement, dette et comptabilité expliquent les interdépendances plutôt que la faute individuelle. Le traitement de la dette s'appuie sur une idée comptable essentielle, la créance de l'un correspond à la dette de l'autre. Cette relation ne rend pas toutes les dettes souhaitables, mais elle interdit de les commenter sérieusement comme si elles constituaient seulement un poids isolé à éliminer. Ménages, entreprises, banques, administrations et reste du monde sont liés par des flux de revenus, de dépenses et de financements. Le livre invite ainsi à examiner qui emprunte, auprès de qui, dans quelle monnaie, à quel taux et pour financer quelle activité. Ces distinctions sont plus éclairantes que les comparaisons simplistes entre le budget d'un État et celui d'un foyer. Un État dispose d'une fiscalité, finance des services collectifs et agit dans une économie où ses dépenses deviennent aussi les revenus d'autres acteurs. Cela ne supprime ni le risque d'inflation, ni la contrainte des taux, ni les problèmes liés à une dette extérieure ou libellée dans une monnaie que le pays ne contrôle pas. Mais cela remet les diagnostics à leur place. Les notions de bilan, de déficit et de dette deviennent des instruments d'analyse des rapports économiques. En montrant leurs effets croisés, l'ouvrage donne des bases solides pour comprendre pourquoi les politiques d'austérité, de relance ou de sauvetage bancaire ne peuvent être jugées à partir d'un seul chiffre. Troisièmement, le PIB mesure l'activité marchande sans résumer la richesse collective. Le livre consacre une place importante à la croissance et au produit intérieur brut, souvent utilisé comme indicateur principal de la santé d'un pays. Il explique ce que le PIB mesure la valeur de la production réalisée sur un territoire pendant une période donnée. Cette définition est utile, car elle distingue une comptabilité de l'activité d'une mesure complète du bien-être, de la justice sociale ou de la soutenabilité. Une hausse du PIB peut accompagner des revenus et des emplois supplémentaires, ce qui lui donne une importance réelle. Pourtant, elle ne dit pas comment la richesse distribuée ne valorise pas directement de nombreuses activités non marchandes et enregistre imparfaitement les dommages environnementaux. Certaines dépenses réparatrices peuvent même augmenter l'activité mesurée, sans signaler une amélioration de la situation collective. Cette limite ne justifie pas de rejeter tout indicateur quantitatif. Elle impose de ne pas transformer un thermomètre en objectif unique. L'analyse relie également croissance, commerce extérieur et rôle de l'État. Les importations et exportations doivent être replacées dans les comptes nationaux plutôt que présentées automatiquement comme des victoires ou des défaites. En soulignant les conventions et les angles morts des indicateurs, l'ouvrage montre que le choix de ce qui est mesuré oriente les priorités publiques. La discussion économique devient alors inséparable d'une discussion sur les finalités sociales et écologiques. Quatrièmement, inflation et crise exigent de distinguer choc d'offres, demandes et mécanismes financiers. L'ouvrage traite les crises économiques comme des phénomènes aux causes multiples, ce qui évite d'appliquer une explication unique à toutes les périodes de turbulence. Une crise peut naître d'un recul de la demande, d'une contraction du crédit, d'une fragilité bancaire, mais aussi d'un choc d'offres provoqué par l'énergie, les chaînes logistiques ou des contraintes environnementales. Cette distinction est décisive pour l'inflation. Une hausse générale des prix ne résulte pas toujours d'un excès de monnaie ou de dépenses. Elle peut provenir d'une baisse des capacités de production, d'une hausse des coûts importés ou de tensions sur des ressources essentielles. Les réponses appropriées diffèrent donc selon le diagnostic. Augmenter les taux d'intérêt peut freiner le crédit et la demande, mais ne fabrique pas immédiatement de l'énergie ni de matières premières. Le livre examine ainsi les mythes qui transforment l'inflation en phénomène uniforme et les crises en accidents imprévisibles. Il met en relation l'économie avec les dépendances matérielles, particulièrement énergétiques et écologiques. Ce cadrage élargit l'analyse sans prétendre que l'environnement explique tout. Il souligne plutôt que les contraintes physiques peuvent devenir des facteurs économiques majeurs. Pour le lecteur, le bénéfice est méthodique avant de juger une politique. Il faut identifier le type de déséquilibre concerné, les groupes exposés et les effets secondaires possibles des remèdes proposés. En dernier lieu, les marchés financiers révèlent les limites d'une finance censée financer l'économie. La dernière grande partie du livre aborde actions, obligations, indices, produits dérivés, banques centrales et acteurs des marchés si. L'enjeu n'est pas seulement de définir ces instruments, mais d'expliquer leurs fonctions et leurs contradictions. Une action représente une part de propriété d'entreprise, tandis qu'une obligation organise une relation de prêt. Ces titres peuvent contribuer au financement des activités, mais une fois émis, ils circulent largement sur le marché secondaire. Les échanges entre investisseurs peuvent alors prendre une place considérable sans fournir directement de nouveaux fonds aux entreprises. Cette distinction aide à comprendre pourquoi la vitalité boursière ne constitue pas à elle seule une preuve de bonne santé économique. Le livre insiste aussi sur la liquidité, les mécanismes de prix, la recherche de rendement et les risques liés aux produits dérivés. Dans des périodes de stress, des actifs supposés faciles à vendre peuvent perdre cette qualité, ce qui accentue les tensions. Les institutions jugées trop importantes pour faire faillite et le développement du shadow banking soulèvent alors une question politique qui supporte les pertes lorsque la stabilité du système est menacée. La régulation, les taux directeurs et les interventions publiques apparaissent comme des choix visant à limiter cette fragilité, non comme des solutions purement techniques. L'analyse restitue ainsi la finance dans son rapport à l'intérêt général, à la spéculation et au pouvoir des institutions. En conclusion, tout sur l'économie, ou presque, convient d'abord aux lecteurs qui suivent l'actualité, sans se satisfaire des formules rapides sur la dette, le déficit, les taux ou la bourse. Il sera particulièrement utile aux débutants disposés à suivre un raisonnement progressif, ainsi qu'aux étudiants, citoyens et professionnels non spécialistes qui cherchent un cadre de compréhension plus cohérent. Les lecteurs déjà familiers de certains sujets y trouveront surtout une mise en relation entre monnaie, comptabilité nationale, crise et marché financier. Son bénéfice pratique est de fournir des questions plus précises face aux annonces publiques. De quelle inflation parle-t-on? Quel bilan est concerné? Quelle fonction remplit réellement un marché? Que laisse de côté un indicateur? Son bénéfice intellectuel est de rappeler que les outils économiques incorporent des hypothèses et des choix collectifs. Par rapport à beaucoup d'introductions qui isolent les chapitres de microéconomie, de macroéconomie et de finance, l'ouvrage se distingue par son effort de continuité entre ces domaines et par son attention aux institutions financières. Le style de vulgarisation, soutenu par des infographies et une tonalité directe, vise à rendre abordables des mécanismes souvent présentés comme réservés aux experts. Sa perspective critique, notamment sur les limites du PIB, la régulation financière et les contraintes écologiques, n'est pas une neutralité artificielle. Elle appelle donc une lecture active, attentive à ses présupposés comme à ceux des discours qu'elle analyse. C'est et précisément cette invitation au discernement qui fait sa valeur dans le paysage des ouvrages d'initiation économique. Si vous souhaitez soutenir Reka, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!